CNRS, la radio Journée nationale de l'innovation en santé, organisée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé et Universcience.
Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur CNRS, la radio, pour une série d'émissions dédiées aux innovations de la recherche pour la santé. Et nous sommes en direct à la Cité des sciences et de l'industrie dans le cadre des Journées nationales de l'innovation en santé. Et nous allons parler de la détection des polluants dans l'environnement pour cette première émission. Perturbateurs endocriniens, métaux lourds, on en parle beaucoup en ce moment. Les combattre est même devenu un sujet souvent évoqué au cours de cette campagne électorale, car on accuse les polluants d'avoir des conséquences sur la qualité de notre environnement et d'être à l'origine de maladies. Alors, au cours des 40 minutes qui vont suivre, vous allez découvrir comment on traque ces polluants et comment, avec des questionnaires très précis, mis au point, entre autres, par des sociologues. Oui, des sociologues, pas seulement des médecins. On peut comprendre l'origine de certaines maladies. Vous allez découvrir des têtards et des alevins fluorescents qui émettent de la lumière lorsqu'ils sont en présence de certaines substances. Grégory Lemkin, docteur en physiologie, nous en parlera. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et le directeur de WatchFrog. Vous allez comprendre comment on peut aujourd'hui pister très finement le chrome et le mercure, l'arsenic et le zinc. Un même métal peut avoir des compositions chimiques différentes et des effets différents sur l'environnement et la santé. Olivier Donard, chercheur au CNRS, c'est vous qui allez nous parler de ce sujet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux, dont vous avez été le directeur jusqu'au 1er janvier dernier. Et vous nous direz comment les machines que vous avez mises au point peuvent détecter ces métaux. Et puis, vous allez voir comment les sciences humaines peuvent aider le corps médical à comprendre comment des polluants peuvent être à l'origine de certaines maladies. Un dispositif très innovant, un questionnaire, a été mis au point par des médecins et des sociologues. Catherine Cavalin, vous êtes sociologue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au Centre d'études européennes de Sciences Po et vous nous présenterez ce dispositif qui a donné déjà quelques résultats. Grégory Lemkin, on va commencer avec vous. Vous avez créé, vous dirigez WatchFrog. C'est un laboratoire indépendant qui s'est développé autour de la recherche de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont très incriminés en ce moment. Alors vous allez nous raconter dans un instant comment vous les pistez dans les cosmétiques, l'eau des rivières. Mais vous allez nous rappeler peut-être pour commencer ce que sont ces perturbateurs endocriniens.
Oui, bien sûr. Les perturbateurs endocriniens sont en fait les substances qui peuvent être d'origine, des substances chimiques qui peuvent être d'origine synthétique ou naturelles, et qui vont interférer avec nos équilibres hormonaux, nos hormones thyroïdiennes, œstrogéniques, androgéniques, bref, tous ces messagers hormonaux dans notre corps qui font que nous sommes capables de développer notre cerveau quand on est bébé, manger le plat de pâtes qu'on va avoir ce midi, avoir des os en bonne santé. Tout ça, ce sont les hormones qui contrôlent les grandes fonctions de notre organisme. Et les perturbateurs endocriniens sont toutes ces substances qui sont capables de perturber l'action de ces hormones et d'aboutir ainsi à des effets pathologiques qui vont, on les soupçonne. Alors, on les connaît comme étant capables de perturber la reproduction des poissons dans les rivières, mais on les soupçonne d'avoir des effets similaires sur la puberté précoce des jeunes femmes, l'infertilité, et également contribuer à des facteurs de maladies neurodégénératives, de cancer, etc.
Le développement des cerveaux des enfants.
Oui, sont les mêmes hormones thyroïdiennes qui permettent à un têtard de se transformer en grenouille, qui contrôlent le développement du cerveau d'un bébé. Tous les mammifères ont un pic d'hormones thyroïdiennes, tous les vertébrés ont un pic d'hormones thyroïdiennes à la naissance, et qui va déclencher la maturation du cerveau. Sans ce pic d'hormones thyroïdiennes, chez l'humain, ça provoque des retards mentaux, des retards de croissance, qu'on appelait, du temps où on ne faisait pas ce dépistage, qu'on appelait le crétinisme. Crétin n'est pas une insulte, c'est en fait une illustration d'un symptôme d'hypothyroïdie. Alors évidemment, ce mal a été résolu, puisque aujourd'hui, tous les bébés qui naissent sont testés pour leur taux d'hormones thyroïdiennes. Et l'hormone thyroïdienne est un des 10 médicaments les plus prescrits dans le monde, de manière à ce qu'on ne voit plus ce genre de problème. Néanmoins, si on reprend le cas des substances chimiques, eh bien, on peut imaginer que, alors que les hormones thyroïdiennes régulent des processus aussi complexes que le développement du cerveau, que le rythme cardiaque, lorsque nous sommes adultes en ce moment, et également jouent un rôle dans le vieillissement, eh bien, on peut imaginer que les produits chimiques qui interfèrent avec les hormones thyroïdiennes peuvent perturber effectivement tous ces mécanismes et amener à des pathologies sur le système nerveux, sur le métabolisme, etc.
Les chercheurs ont même constaté que des mamans enceintes qui sont en présence de perturbateurs endocriniens mettent en danger, le mot est peut-être un petit peu fort, mais il peut y avoir des conséquences sur la vie des enfants à naître.
Oui, il est toujours très difficile de faire une relation de cause à effet entre des polluants, on en reparlera j'imagine, et des conséquences sur la santé. Le sujet des perturbateurs endocriniens est particulièrement symbolique de ce point de vue-là, puisque nous sommes entourés de substances endocriniennes pour notre bien, dans notre nourriture, dans notre quotidien, nous avons un équilibre dynamique endocrinien. Il est tout à fait normal qu'on trouve des centaines, des milliers de substances dans notre environnement qui aient un potentiel endocrinien. Ce n'est pas pour autant qu'on doit parler de perturbateur endocrinien. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un peu de substance, un peu de potentiel endocrinien, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie naturelle. Mmh. Et puis quand on est surexposé à des produits qui ont un potentiel perturbateur, eh bien, ça va déséquilibrer notre équilibre hormonal et à partir de ce moment-là, potentiellement amener à des conséquences pathologiques. C'est pour ça que les méthodes d'évaluation doivent drastiquement changer.
Grégory Lemkin, quelques noms de perturbateurs endocriniens. On connaît les parabènes, les retardateurs de flamme, mais...
Vous voyez, je fais très très attention à...
Mais c'est ce que je vois, vous êtes prudent.
Oui, parce que parmi les substances que vous avez citées, il y a bien évidemment des substances qui ont un potentiel endocrinien. Maintenant, est-ce qu'on doit les classer comme perturbateurs endocriniens? C'est un débat dans lequel moi, je ne suis pas. Nous, notre laboratoire, le laboratoire WatchFrog, est là pour mesurer le potentiel endocrinien de ces substances. Donc, on le connaît parce que les substances que vous avez évoquées, on les a déjà testées. Et c'est vrai, elles ont un potentiel endocrinien. Maintenant, quant à savoir si ce sont des perturbateurs endocriniens et qu'on doit les légiférer, les réglementer entre tels, ça, c'est le travail du législateur.
Alors, je pose la question différemment. Quelques noms de... On ne va pas les appeler perturbateurs, de substances endocriniennes.
Oui, non, mais il y a quand même quelques perturbateurs qui sont assez évidents. On peut parler, par exemple, de l'atrazine dans l'eau, hein, ça c'est, ou du perchlorate. Voilà, c'est des substances qu'on va retrouver dans l'eau du robinet. Et je crois qu'il est très difficile de trouver une eau du robinet aujourd'hui en France dans laquelle il n'y a pas d'atrazine, qui est bien en dessous des seuils réglementaires. Mais ces seuils réglementaires, c'est vrai qu'ils ont été établis non pas sur la capacité de l'atrazine à agir comme un perturbateur endocrinien, mais comme la capacité de l'atrazine à agir comme un produit toxique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et évidemment, quand on prend de l'eau, il n'y a pas que de l'atrazine dedans. Donc il peut y avoir des effets cocktails, des mélanges qui peuvent avoir des effets additifs.
Et vous allez nous raconter dans un instant comment vous les traquez, ces... je n'ose plus dire perturbateur endocrinien.
C'est très important de parler de perturbateur endocrinien parce que c'est au moment où il va y avoir une conséquence à l'échelle de l'organisme, c'est-à-dire avoir une conséquence pathologique observable, qu'on va parler de perturbateur. Et c'est cette définition qu'a retenue la Commission européenne.
Vous allez donc nous raconter dans un instant comment vous les traquez. Olivier Donard, vous êtes chimiste et ce sont les métaux qui vous intéressent. Vous avez mis au point une technique que vous nous décrirez dans un instant, mais vous vous intéressez aux métaux lourds, qui sont aussi pointés du doigt. Et pourquoi?
Alors, quand on va parler des métaux, et notamment la première des choses que je vais dire, c'est que ça relève d'ailleurs de l'intérêt qu'il y a pour ce sujet et quelquefois de la méconnaissance. On utilise le terme de métaux lourds parce qu'au début du siècle, pour justement mesurer ces métaux lourds, dans les eaux résiduelles, on faisait précipiter et on les mesurait, on les pesait. Et le terme est resté. Et depuis, bien sûr, les concepts ont considérablement évolué. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ce terme de métaux lourds parce qu'en fait, on est loin de la réalité actuelle de ce que l'on sait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un métal peut avoir des propriétés toxiques ou bénéfiques. Vous avez par exemple des gens qui vont aller acheter des oligo-éléments pour pouvoir améliorer ou être plus tonique dès le matin. Et puis vous avez des problèmes de pollution qui sont connus. Je dirais le premier grand problème de pollution qui a un petit peu, je dirais, alerté l'opinion publique, c'est dans les années 60 à Minamata au Japon, où en fait les chats ont commencé à avoir des problèmes. Ils se jetaient à l'eau, on ne comprenait pas pourquoi. Les rats ont commencé à se développer. Et en fait, ils se sont aperçus, et ça c'est intéressant parce que ça montre toute la complexité du système, c'est en fait les pêcheurs qui allaient dans la baie de Minamata, qui pêchaient les poissons, qui les ramenaient. Les chats mangeaient les poissons étaient contaminés au mercure et au méthylmercure. Et à ce moment-là, ça perturbait l'équilibre neurologique des chats qui ne pouvaient plus chasser les rats. Donc on voit bien toute la chaîne qui se met en place. Et comme tous les problèmes de métaux, enfin, ou même de polluants, il a fallu qu'on en arrive à une vision macroscopique, c'est-à-dire une malformation sur les personnes. Donc vous avez eu la première personne qui a vraiment alerté de façon massive, c'est un photographe, Eugène Smith, qui a fait des photos des gens. Et là, ça a alerté l'opinion publique. Et les gens ont mis du temps à comprendre que c'était une usine qui relarguait du mercure dans le fond de la baie. Les pêcheurs pêchaient dans la baie. Ce mercure était transformé par des bactéries en méthylmercure. Vous voyez déjà qu'on change le concept. Donc, une molécule qui a été transformée par des bactéries qui est beaucoup plus toxique, qui est perméable, qui passe les barrières membranaires de façon rapide, qui se bioaccumule dans la chaîne. Et donc, les poissons étaient très chargés en méthylmercure. Et donc, c'était une ingestion directe, d'abord pour les chats qui étaient plus sensibles que les humains, et l'impact est arrivé derrière. Donc, à travers ça, vous avez à la fois l'image de la chaîne, vous avez la notion de différentes formes chimiques, et dans les années 60, ils ont mis du temps à trouver les moyens, comment mesurer le mercure inorganique par rapport au méthylmercure. Et ça, c'est quelque chose qui... Donc, moi, en tant que chercheur, et moi, en tant que personne qui veut comprendre le transfert des métaux dans l'écosystème, avec son rôle, eh bien, dire qu'il y avait du mercure ou de l'arsenic ou du sélénium, on s'aperçoit très vite que ça n'a pas beaucoup de sens et qu'il faut donc trouver les bons moyens de trouver les formes chimiques. Voilà.
Vous avez mis au point des machines qui sont capables de pister ces métaux. Et vous dites donc, pour résumer, qu'il y a mercure et mercure, arsenic et arsenic, sélénium et sélénium.
Voilà, exactement. Donc, en fait, ça va être un petit peu... En fait, si vous voulez, c'est en gros, on a fabriqué les lunettes qui nous permettaient de dire que dans un poisson, il y a du mercure inorganique et du méthylmercure. Je vais vous donner un autre exemple de ces formes-là qui sont importantes dans de l'arsenic. Vous avez beaucoup d'arsenic naturellement dans tout ce qui est crustacé. Mais en fait, cet arsenic est sous forme chimique arsénobétaïne qui n'est pas ingérable et mobilisable par l'organisme. Donc, quand vous mangez du crabe, quand vous mangez du homard, vous ingérez des quantités d'arsenic importantes que si elles étaient sous forme d'arsenic inorganique qui est toxique, à ce moment-là, il y aurait des problèmes. Mais vous savez bien que c'est quand même assez agréable de manger du homard. Donc voilà, en tant que scientifique, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Et donc, comme on s'est aperçu qu'on avait du mal à voir ce de quoi on parle, on a passé pas mal de temps à mettre au point des méthodes qui nous permettent maintenant de savoir de quoi on parle. Dans le cas de l'arsenic, j'en parle parce qu'il y a à peu près 80 ou 90 formes d'arsenic différentes et toutes n'ont pas encore été identifiées. Donc c'est un processus qui continue.
Et ces méthodes, vous allez nous les décrire dans un instant. Catherine Cavalin, vous êtes sociologue. Est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable prise de conscience de la société face aux polluants ?
Oui, nécessairement. Je dirais que l'information est bombardée de toutes parts, donc il est difficile d'échapper à la prise de conscience. En même temps, ce bombardement débouche sur beaucoup de perplexité. Alors, on peut peut-être différencier, quand on dit sur la société, les consommateurs, les patients, selon la nature du rôle qu'on tient et du problème qu'on peut avoir face à ces risques. En tout cas, la lisibilité est difficile, l'information est omniprésente, le risque semble partout. Voilà, il ne faut plus manger de bonbons tête brûlée puisque le dioxyde de titane est partout. Cette substance est retrouvée dans tous les additifs alimentaires. L'inquiétude est omniprésente, mais on ne sait pas trop quoi faire. Alors, le consommateur semble assez perplexe et en plein désarroi face à des risques multiples. Et les patients, en revanche, souvent, avec des associations de patients dans les dernières années qui ont joué des rôles très actifs, sont en recherche très précise de savoir comment faire de la prévention, comment éviter les substances. C'est un peu sur ces questions-là que je travaille, sur savoir comment rendre de la lisibilité et essayer de prendre en charge la question du point de vue de la société.
C'est ce que vous allez nous raconter dans un instant, mais on sent bien que de la part des consommateurs, il y a une véritable prise de conscience. Les perturbateurs endocriniens, cette formule n'était pas connue il y a quelques années seulement, Grégory Lemkin.
Oui, c'est vrai que... On est sur un concept relativement récent, ce qui a fait que, d'ailleurs, dans certains secteurs, comme dans le domaine de l'eau, on a commencé à parler de polluants émergents, alors qu'en réalité, ces substances étaient présentes déjà depuis très longtemps. Simplement, notre prise de conscience, les méthodes d'analyse, d'investigation, font que l'on comprend quelles sont ces substances, comment elles agissent. Et donc, finalement, c'est notre prise de conscience qui est émergente. Ce ne sont pas les polluants. Voilà.
Oui. On peut dire quand même qu'ils étaient moins présents il y a un siècle, que l'industrie a fait qu'on en trouve de plus en plus, qu'on en trouve dans les produits cosmétiques, qu'on en trouve dans les produits alimentaires.
Bien sûr. Quand je dis ils étaient présents depuis longtemps, c'est effectivement, je parle depuis plusieurs dizaines d'années. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, par le mot perturbateur endocrinien, en fait, derrière, il y a aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, une prise de conscience du fait que parfois, les polluants n'agissent pas de la façon dont on s'y attend. C'est vrai que jusqu'à présent, on est dans une évaluation du danger, de la toxicité, qui fait appel à des concepts tout à fait justes, hein, qui restent valables. Là, c'est la dose qui fait le poison. Et là, on découvre que face à une surexposition de substances qui peuvent agir à des très faibles concentrations...
Aux effets cocktails, lorsque les substances se mélangent...
Qui peuvent interagir avec notre organisme, qui lui-même va avoir des mécanismes de compensation physiologique, eh bien, finalement, on peut avoir des effets à faible dose qu'on ne trouve pas à forte dose. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ça peut arriver. Ça remet complètement en cause les principes habituels d'évaluation de ces polluants. Donc ce n'est plus tout à fait les principes de toxicité qui prévalent, mais plutôt, comme on le définit, l'effet de perturbation. C'est-à-dire qu'on définit un polluant non pas par sa classe chimique, comme ça a été le cas avec les métaux lourds, mais par les effets qu'ils peuvent avoir. Et là, ça change complètement notre rapport à la nature, et c'est là que ça rejoint le sujet de la sociologie. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une mécanique classique d'évaluation, mais on est véritablement dans la question qu'on se pose, c'est-à-dire quel est l'impact sur notre environnement et quel impact notre environnement a sur nous.
Olivier Donard, je vous voyais faire oui de la tête quand M. Lemkin disait « ce n'est pas la dose qui fait le polluant pour les métaux, c'est la même chose ».
Alors, effectivement... J'étais en train de réfléchir. La question est plus complexe, évidemment. Le premier point, c'est que effectivement, la notion de dose est importante, mais actuellement, beaucoup d'études portent sur un seul contaminant. Et effectivement, c'est vraiment l'effet cocktail. Et puis, quand on parle de l'effet cocktail, vous avez des contaminants, je dirais, organiques, et vous avez des contaminants métalliques ou organométalliques. Tout ça est assez, je dirais, présent. Et donc, cette relation de présence de cocktails et effets, je dirais, synergiques, c'est encore quelque chose sur lequel on a pas mal de travail à faire. Et puis j'écoutais aussi, et ce qui est maintenant aussi bien connu, c'est que sur tous ces contaminants, ce qu'il apparaît, c'est qu'ils sont absorbés par l'organisme, ils sont métabolisés, et en fait, ce sont des produits de métabolisation qui sont à ce moment-là beaucoup moins importants en concentration, qui ont quand même des effets toxiques beaucoup plus significatifs. Donc en fait, on voit bien qu'on nous-mêmes, nous avons une conception, je dirais, de la fonction d'entrée de ce que l'on sait. Cette fonction d'entrée est déjà beaucoup plus complexe. Et ensuite, il y a un filtrage par le système biologique qui le transforme et qui peut, malgré tout, le rendre encore plus toxique à des concentrations beaucoup plus faibles. Donc vous voyez bien qu'on est dans un système multiparamétré sur lequel il faut avancer. Et il faut surtout essayer de savoir de quoi on parle. C'est pour ça que les méthodes de détection sont très importantes.
Alors comment on les détecte, justement, on va y venir. Grégory Lemkin, quelle est l'originalité de vos travaux? Vous avez trouvé des outils efficaces et, per- et pertinents pour mesurer ces polluants. Ces outils sont vivants, ce sont des têtards et des alevins. Racontez-nous.
Oui, le laboratoire WatchFrog exploite et a développé une technologie qui aboutit à la possibilité de tester les perturbateurs endocriniens. Et pour cela, nous sommes partis véritablement de notre savoir-faire historique qui était au Muséum d'Histoire Naturelle, où on étudiait le rôle des hormones, des substances, des systèmes endocriniens, au travers l'évolution. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les mêmes hormones thyroïdiennes qui contrôlent la métamorphose d'un têtard et le développement du cerveau d'un bébé. Ces messagers fondamentaux sont conservés au travers de l'évolution. Et donc, il nous fallait un outil qui puisse mesurer l'effet, qui est donc doué d'un système endocrinien et qui en même temps permette d'éviter d'utiliser des animaux de laboratoire. Parce que lorsqu'on a imaginé que parmi les 30 000 ou les 100 000 substances chimiques qui sont concernées en Europe, eh bien, il faudrait tester ces substances sur des organismes vivants pour voir s'ils avaient des conséquences endocriniennes, on s'est rapidement dit qu'on allait avoir un problème éthique. Et donc, plutôt que de travailler sur des animaux de laboratoire, nous avons décidé de travailler sur des œufs, sur des larves. Et donc, nous avons développé des bio-indicateurs qui permettent de mesurer l'impact des perturbateurs endocriniens au moment où les hormones ont le plus d'importance, c'est-à-dire au moment embryo-larvaire, dans les premières heures, dans les premiers jours de développement d'un organisme vertébré. Et donc, nous avons intégré des marqueurs fluorescents qui permettent de témoigner de l'action des hormones et bien sur des larves d'amphibiens, on peut appeler têtards, des alevins de poissons qui font 1 à 2 mm, qui sont translucides. Et donc, grâce à cette fluorescence, on peut voir là où les polluants agissent pour perturber l'équilibre hormonal et amener à des défauts sur la fonction nerveuse, sur le métabolisme au niveau de la larve.
Grégory Lemkin, je résume. Ce sont des têtards et des alevins que vous marquez génétiquement et qui les fait s'allumer quand ils réagissent aux polluants. En fait, la lumière traduit ce que ressent le têtard ou l'alevin en présence de polluants, c'est
exactement,
ça ?
Exactement. C'est-à-dire que les larves d'alevins, de poissons, de têtards que l'on utilise vont s'allumer en réponse aux effets des perturbateurs endocriniens. Et plus ils s'allument, plus cela veut dire qu'il y a des effets. Donc c'est ça qui nous permet en réalité d'être une des seules solutions qui permet de distinguer un effet endocrinien faible, c'est-à-dire qui va provoquer un faible allumage des larves, et un effet perturbateur endocrinien qui va suffisamment allumer les larves en termes d'intensité pour que l'on puisse prédire que le cerveau de la larve va avoir des problèmes de développement, que la larve ne va pas pouvoir se développer, que sa croissance ne va pas pouvoir avoir lieu. Et donc, grâce à ces méthodes, qui sont aujourd'hui des méthodes normalisées, hein, des normes françaises, des lignes directrices internationales au CDE, et bien donc on est capable de tester sur ces modèles plus éthiques et bien l'ensemble des produits chimiques qui nous entourent.
Et vous nous direz tout à l'heure qui fait appel à vous. Olivier Donard, vous développez des machines qui analysent des échantillons dans lesquels on cherche la présence de métaux, et ces machines le font très finement. Un même métal, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, peut avoir plusieurs compositions chimiques différentes.
Au sein du même échantillon.
Oui, oui, oui.
Voilà. Oui, tout à fait. Donc, nous avons. Alors, historiquement, en ce qui concerne les métaux, dès le départ, on s'est toujours. Au siècle dernier, les gens sont intéressés au fait qu'on pouvait justement catégoriser les métaux en les faisant passer dans une flamme et donc de voir des raies d'absorption. Et donc, ça a fasciné les gens parce que c'était des transitions électroniques qui étaient bien codifié et quantifié. Et donc, ça a démarré la spectroscopie atomique. Le problème de spectroscopie atomique, c'est que, quelque part, on est obligé de détruire l'information chimique dans laquelle le métal est présent. Et donc, pendant très longtemps, on n'a pas vu tout le rôle des formes chimiques. Donc, en fait, il faut essayer de respecter l'identité des formes chimiques qui sont effectivement dans l'échantillon. Et donc, on fait ça avec une combinaison de techniques, des techniques très bien connues qui sont des techniques séparatives, qui, dans un premier temps, nous permettent de séparer les formes chimiques dans un échantillon donné. Et puis après, on utilise des techniques de détection. Aujourd'hui, ce sont des techniques avec une ionisation par plasma, avec une spectrométrie de masse derrière, qui nous permet maintenant d'avoir une très, très grande sensibilité et sélectivité pour pouvoir détecter, par exemple, dans un certain composé, enfin, certains échantillons sur l'arsenic, on va trouver jusqu'à une vingtaine de formes arséniées différentes. Mercure, 2 ou 3, ça va dépendre. Sélénium, ça peut être aussi très, très abondant. Parce qu'après, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que ces métaux, en fonction de leur configuration chimique, se substituent aussi dans les fonctions vitales du système et sont transformés. Donc, en fait, ils ressortent très souvent sous des formes chimiques qui ont été transformées, peut-être pas par les mécanismes chimiques, biochimiques intentionnellement, mais néanmoins, le résultat est là.
Olivier Donard, concrètement, on vous demande d'analyser un sol pour savoir s'il est pollué. Vous faites un carottage. De cette carotte, vous faites des tranches et puis vous analysez chaque tranche, c'est ça ?
Voilà. En fait, ce qui est, d'une façon générale, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est anthropique. C'est-à-dire que en ce qui concerne les métaux, par exemple, à certains polluants organiques, on va retrouver, on sait très bien qu'ils sont primairement, en premier temps, introduits par l'homme. Sur les métaux, on a cette dualité naturelle anthropique, puisque, en général, les métaux dans le système viennent, il y a un cycle naturel qui se fait, érosion des roches. Toutes les roches sédimentaires contiennent moins de métaux que les roches, volcaniques, par exemple, hein. Et donc, naturellement, lors du cycle de la nature, on va avoir les sols qui vont se former, les végétaux qui vont puiser ces métaux pour leur développement. Et puis ensuite, avec les feuilles, ça va redevenir. Et donc, vous allez avoir toujours des métaux qui vont être présents sous forme naturelle et puis des métaux que nous allons amener. Donc là, maintenant, avant de rentrer dans la forme chimique, il faut savoir, est-ce que c'est des métaux qui sont d'origine naturelle ? Puisque, en général, ça participe de l'équilibre. Dans certains cas, il peut y avoir effectivement des pollutions naturelles qui sont graves et qui perturbent les équilibres. Mais en général, il y a quand même une notion d'équilibre qui est faite. Et donc, première chose, discriminer ce qui est naturel anthropique. Donc effectivement, on va chercher à travers des carottes dans la plupart du temps. Les gens l'ont aussi fait dans les glaces de l'Antarctique. À ce moment-là, on remonte dans les tranches pour remonter dans le temps. Et puis, on arrive à savoir ce qui était naturel de ce qui était anthropique. Après, il faut qu'on sache sous quelle forme se trouve ce métal. Prenons l'exemple du chrome. Le chrome 3, on en donne dans l'alimentation parce que c'est un effet totalement bénéfique. Mais si ce chrome se transforme chimiquement, eh bien, à ce moment-là, chrome 6, il va devenir très toxique. Donc, il y a ensuite toute l'étude à essayer d'extraire ces métaux sans perturber la forme chimique pour avoir l'image la plus réaliste. Ce n'est pas simple.
Mais vous y arrivez.
Alors, ça a été, je pense qu'en tant que chercheur, un des objectifs fondamentaux, c'est de toujours ouvrir de nouvelles portes, amener toujours de mêmes questions. Mais à partir du moment où on a résolu certaines questions, il faut les fiabiliser et les mettre dans le domaine public pour que ça serve à quelque chose. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, faire les méthodes d'analyse que nous utilisions, on passait pour des gens très experts, et maintenant, ça se fait en 3 minutes. Et donc, on a repoussé le champ des questions.
Ce sont de gros instruments, de grosses machines ?
Alors, on a travaillé avec les constructeurs pour que ça devienne de plus en plus... Oui, c'est quand même... ça tient sur une paillasse, comme on dit, mais maintenant, c'est plus très gros, quoi. Mais certains sont encore gros. Mais justement, on tend vers une miniaturisation. L'important, c'est que les concepts avancent.
Vous avez donc développé ces machines pour traquer les polluants, mais vos travaux ou d'autres applications, vous nous raconterez ça tout à l'heure, notamment des charcutiers font appel à vous. Vous nous direz pourquoi. Catherine Cavalin, vous avez développé un dispositif qui ne recherche pas directement les polluants, mais qui est une aide très précieuse au diagnostic. Alors racontez-nous.
Oui, alors on l'espère en tout cas, au diagnostic et à la prise en charge des patients, pour la prévention peut-être plus même que pour le diagnostic. Alors centralement, ce questionnaire que nous utilisons et que nous avons mis au point avec des médecins...
c'est donc un questionnaire.
Voilà, c'est un questionnaire. Concerne la silice cristalline, qui peut sembler un sujet exotique à première vue, qui est tout sauf exotique, puisque la silice cristalline, donc c'est le dioxyde de silicium, SiO2, c'est la première composante minérale de l'écorce terrestre. Et donc, on rejoint ce que mes voisins ont dit tout au long de leurs propos, c'est-à-dire qu'on a en permanence, du fait de l'ubiquité totale de cette substance, une présence potentielle permanente dans à peu près toutes les activités manufacturières et des activités aussi domestiques où on peut utiliser des produits qui contiennent cette composante minérale, des expositions à cette substance. Donc, je rejoins aussi donc, ce que disaient mes deux collègues, puisque le problème des effets cocktail est permanent. La silice est partout, et donc la combinaison aussi de la silice avec d'autres substances est un sujet d'intérêt sur le risque. Et donc, l'idée, c'est non pas, effectivement, vous l'avez dit, non pas comme M. Lemkin ou M. Donard, de chercher à détecter la silice, puisque finalement, c'est assez facile, elle est partout, donc on sait où elle est. C'est plutôt d'essayer de faire reconstituer dans l'histoire de vie professionnelle et non professionnelle, de monsieur et madame tout le monde, non malades, mais aussi des patients, essayer de reconstituer l'histoire des expositions le plus finement possible, ce qui est compliqué puisque le contact est quasi permanent, avec des techniques des sciences sociales mises à disposition et en collaboration avec la médecine.
Vous avez donc mis au point ce questionnaire avec des médecins, avec quel type de questions? Parce que puisque la silice est partout, y compris dans les produits de maquillage, quel genre de questions vous posez?
Alors des questions très concrètes, il faut... Disons qu'au départ, effectivement, on a une identification qui peut être très spécialisée, très technique de la présence de ce matériau ici ou là, mais il faut pouvoir l'exprimer simplement et le faire reconnaître. Donc le questionnaire que nous utilisons doit avoir les propriétés que les épidémiologistes appellent de sensibilité et de spécificité, c'est-à-dire quand on interroge les gens, il faut que les questions ne soient pas trop général pour éviter que tout le monde dise oui, c'est-à-dire que les oui soient des vrais oui de contact avec la substance. Et quand on dit oui, il faut que ce soit vraiment cette substance-là qui soit identifiée. Donc les questions naviguent, donc le questionnaire entre par tous les bouts, entre justement des appellations ou des façons de dire les choses qui sont très techniques, très spécialisées, et un langage beaucoup plus profane, de description d'activité, alors en évitant surtout de caractériser, par exemple, des catégories socio-professionnelles telles qu'on les trouve dans les nomenclatures de l'INSEE, en décrivant vraiment les activités. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Est-ce que vous portez des équipements de telle ou telle sorte? Et alors, je prends l'exemple du maquillage que vous avez redonné ici, qui revient dans notre conversation. Évidemment, c'est un problème très compliqué, puisque si vous prenez le moindre tube de rouge à lèvres, vous voyez qu'il y a à peu près 50 produits dedans. Donc, la personne qui met du rouge à lèvres ne sait absolument pas quel produit elle utilise. Donc pour poser des questions sur ces substances-là, c'est extrêmement difficile. Donc typiquement, donc si par exemple je pose des questions sur les expositions à la silice dans le bâtiment, à quelqu'un qui a pu travailler dans le secteur de la construction, je vais poser des questions très pratiques sur les matériaux utilisés, fabriquer ou pas du béton, manipuler les matières premières pour fabriquer du béton, etc. Mais sur le maquillage, je ne vais pas pouvoir dire « Avez-vous utilisé de la silice dans votre rouge à lèvres ?» Donc je vais essayer d'approcher l'intensité probable de l'exposition de la personne en lui demandant au cours de sa vie, d'abord si professionnellement par exemple elle a utilisé du maquillage en étant obligée de se remaquiller plusieurs fois par jour, obligée de se maquiller tous les jours, et avec quelle substance. Donc le nombre de produits et la fréquence et l'intensité de la pratique de maquillage nous donnera, vraiment c'est l'exemple le plus compliqué hein, pour cerner la silice, quelque chose qui va approcher sans doute une intensité d'exposition, un cumul.
Parce que la silice est à l'origine de la silicose, mais pas seulement, le lupus systémique, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, l'uvéite sont des maladies qui peuvent être potentiellement causées par la silice.
Alors c'est une question, et c'est le point de départ historique de notre recherche, et c'est ce qui a intéressé les médecins à travailler avec les sciences sociales. Puisqu'historiquement, donc, la silice est connue effectivement comme la substance qui provoque la silicose et typiquement donc, la maladie des mineurs. Mais quand on remonte, et on le sait très bien en science, que la science est faite de connaissances, de cumul de connaissances et aussi d'oubli de connaissances, quand on remonte dans l'histoire de la silice, comme dans celle de l'amiante par exemple, on s'aperçoit que très tôt, d'autres maladies en effet ont été décrites, alors pas nécessairement avec les noms que vous venez de leur donner, puisque, par exemple, du fait des progrès ou même de la naissance de l'immunologie qui est relativement récente, les noms et les façons de décrire ces maladies ont pu changer, mais on s'aperçoit que très tôt, des formes de pathologies ont été décrites en rapport avec ces expositions. Et on s'aperçoit aussi que pour des raisons en bonne partie économiques, de problèmes, de difficultés à trouver des moyens d'indemnisation dans les régimes d'assurance professionnelle, financement par les employeurs de la couverture des salariés, on s'aperçoit que beaucoup de ces maladies ont été mises de côté à l'exclusivité de la silicose qui a concentré finalement le regard. Et donc on réouvre ces portes, hein, on essaie de réinterroger à la fois ces maladies et certaines formes de ces maladies, puisque la question qui se pose pour les médecins qui les traitent, c'est celle de la symptomatologie, avec des formes différentes, hein, par exemple selon les femmes ou les hommes qui sont touchés par ces maladies.
Ce questionnaire a été distribué à combien de personnes aujourd'hui ?
Alors, il est utilisé de deux grandes manières, je dirais. Dans une enquête en population générale, dont le recensement est tiré l'échantillon est tiré dans le recensement en continu par l'INSEE, dans une enquête donc, qui est réalisée par le Centre de données sociopolitiques de Sciences Po, l'enquête ELLIPSE, donc 825 personnes et maintenant 3000 qui répondent en autopassation à ce questionnaire. Donc, population générale, ça veut dire le tout venant, le tirage parfaitement aléatoire, hein, une observation donc jamais réalisée et très intéressante de l'exposition à ces particules inorganiques dans la population en général. Et il était utilisé aussi à des fins donc, cliniques, de prévention, de diagnostic, par des cliniciens, avec des immunologistes, auprès de patients. Donc vraiment là, sur des questions très spécifiques, hommes, femmes, forme de la maladie, gravité de la maladie, dans la sarcoïdose, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus systémique ou la sclérodermie systémique.
Alors le temps passe très très vite. Assez rapidement, Olivier Denard, racontez-nous pourquoi les charcutiers s'intéressent à vos travaux.
Vous allez me faire un télescopage de concepts très rapide. Donc en fait, au début, on s'intéressait aux métaux. Donc je vous ai expliqué que après, on s'est intéressé aux formes chimiques de ces métaux. Et en fait, ces métaux sont constitués d'isotopes, différents isotopes. Et en fait, quand on arrive à les mesurer avec des techniques, là, les machines sont grosses et lourdes, on arrive à mesurer leur rapport isotopique. Et donc, pour faire simple, dans certains cas, on arrive maintenant à associer origine géographique et signature isotopique. Donc, très simplement, je viens du Béarn, et donc les charcutiers, on a fait des tests, et on arrive très bien à distinguer l'origine, on peut très bien distinguer les jambons ibériques des jambons de Bayonne, et donc les jambons de Bayonne veulent un label isotopique.
Voilà, donc vous tracez les aliments. Grégory Lemkin, qui fait appel à vous, l'industrie cosmétique ? Il nous reste une minute.
Ben, très rapidement, le laboratoire Watchfrog est vraiment venu de la recherche, donc il nous a fallu développer des solutions qui soient utilisables par le plus grand nombre. La recherche est bien, mais il faut aussi qu'il y ait une exploitation de ces outils. Et cette exploitation de les outils, on l'a trouvée effectivement dans les produits du quotidien. Nous sommes capables aujourd'hui de tester à la fois les ingrédients, mais également les préparations cosmétiques, les produits chimiques qui rentrent dans la conception des véhicules automobiles. Et puis tous ces polluants qu'on a évoqués, vous aurez bien compris qu'ils ont une fin de vie dans notre environnement et en particulier dans l'eau. Mmh. Alors quoi de plus naturel que d'utiliser des larves d'amphibiens ou de poissons pour mesurer la qualité de l'eau ? Et pour ça, nous avons développé des outils qui permettent de mesurer le potentiel perturbateur dans les eaux. Pour les municipalités, nous surveillons la qualité de l'eau en région parisienne pour le SIAP, pour le CEDIF et pour bon nombre de collectivités territoriales, également à Bruxelles et à Lausanne.
Catherine Cavalin, une dernière question. Les premiers résultats sont arrivés ?
Oui, les premiers résultats sont arrivés, qui pour l'instant semblent montrer une participation de cette substance, la silice cristalline, dans ces pathologies qui sont inflammatoires, systémiques, auto-immunes. Une participation qui est une cause parmi d'autres. Donc ce n'est pas la détection de la cause, mais plutôt la compréhension des mécanismes sociaux et des comportements par lesquels cette substance peut participer au développement et à la gravité de ces maladies.
Merci beaucoup Catherine Cavalin, sociologue au Centre d'études européennes de Sciences Po. Merci Olivier Denard, chercheur CNRS à l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux. Et merci Grégory Lemkin, fondateur et directeur de Watchfrog. Merci à tous les trois. Pardon ?
Je peux rajouter juste quelque chose très court. Ce qui m'a plu, c'est de voir que ce qui sort des laboratoires...